Bonjour, je suis Céline Hussonnois-Alaya. Plus de 300 drones et missiles ont été lancés samedi soir depuis l'Iran sur Israël. C'est la première attaque directe du régime des Mollahs sur l'État hébreu. Si la plupart de ces drones a été interceptée, Israël se réserve le droit de riposter. La communauté internationale craint une escalade. Il fait doux ce samedi 13 avril, une soirée de Shabbat printanière en Israël. Lorsqu'aux alentours de 23h, le porte-parole de l'armée israélienne annonce à la télévision « Le pays est la cible d'une attaque de drones lancée depuis l'Iran ».
Nous surveillons actuellement la menace dans l'espace aérien. Cette attaque aura besoin de plusieurs heures avant d'atteindre le territoire de l'État d'Israël.
Quelques minutes plus tard, elle est confirmée par la télé iranienne.
Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une attaque de grande ampleur contre les territoires occupés il y a quelques minutes.
Plus de 300 drones et missiles viennent en effet d'être lancés par le régime des Mollahs. Toute la région est en alerte. La Jordanie déclare l'état d'urgence. Israël, le Liban et l'Irak ferment leur espace aérien. De premiers drones sont interceptés par l'aviation américaine en Irak. Dans la foulée, l'aviation israélienne bombarde des positions du Hezbollah au Liban, craignant une double attaque. À la Maison-Blanche, une réunion d'urgence est organisée autour du président américain Joe Biden. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, puis la France annoncent leur soutien à l'État hébreu. Une heure plus tard, les sirènes d'alerte retentissent en Israël. Un habitant de Jérusalem raconte à BFM TV ce qu'il a vu.
Vers 1h45, heure locale, les premiers drones lancés par l'Iran ont atteint Israël. La plupart des habitants ont alors reçu une alerte.
Ça donnait l'effet d'un ciel étoilé et on a vu quelques-uns d'entre eux qui étaient en train d'être abattus. J'ai vu certains aussi continuer leur route. C'est assez terrifiant, donc je suis vite descendu chercher ma famille. Et actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes donc dans l'abri.
Car grâce au dôme de fer, 99% des drones sont interceptés. En Israël, c'est l'inquiétude, comme en témoigne Igor Sahiri, l'envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv.
L'inquiétude qui est montée d'un cran ces dernières minutes.
Oui, absolument. Nous avons croisé quasiment personne dans les rues. Les seuls personnes que nous apercevons sur le trottoir, c'était des gens qui avaient des packs d'eau avec eux et des sacs de nourriture. Là, nous sommes tout près du quartier de notre hôtel. Nous sommes juste après Shabbat, un samedi soir. Théoriquement, ici, il y a beaucoup de monde dans les rues. Il y a des gens qui sont posés à la plage pour boire un verre. Il y a des passants, il y a des trottinettes, il y a des gens en roller. C'est un quartier extrêmement vivant. Il n'y a quasiment personne ce soir au moment où je vous parle.
En revanche, en Iran, ce sont des scènes de liesse. Des milliers d'Iraniens se rassemblent dans les grandes villes pour célébrer l'attaque. Mais une autre partie de la population, plus discrète, est inquiète et craint une escalade des violences, explique à BFM TV le correspondant de RFI à Téhéran. D'autant que le contexte économique est difficile en Iran.
La situation économique se dégrade chaque jour. Depuis le début du conflit, le 7 octobre, la monnaie iranienne a perdu plus de 30% de sa valeur et ça a continué ces derniers jours. Et les gens craignent donc une guerre très, très étendu avec par exemple des destructions des infrastructures du pays, notamment qui ferait que l'Iran, les gens, les habitants n'auront plus d'électricité ou de gaz.
Cette attaque de drone, c'est la première attaque directe de la République d'Iran sur Israël, son ennemi juré. Mais c'est aussi l'aboutissement de 2 semaines de tensions après une frappe le 1er avril contre une annexe consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie, qui a fait plusieurs morts côté iranien, dont 2 généraux. L'Iran accuse Israël d'en être à l'origine, ce que l'État hébreu ne reconnaît pas. Mais 3 jours plus tard, Israël renforce la vigilance de ses unités de combat. En milieu de semaine dernière, la tension monte encore d'un cran. Téhéran renouvelle ses menaces.
C'est une menace directe proférée par le guide suprême iranien à l'égard d'Israël. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Menace réitérée sur les réseaux sociaux, représailles à la frappe du 1er avril sur le consulat iranien de Damas en Syrie.
Des menaces que les États-Unis prennent au sérieux, alertant sur un risque d'attaque importante contre Israël. Washington annonce d'ailleurs l'envoi de renforts au Moyen-Orient. Et vendredi, c'est-à-dire la veille de l'attaque, l'Iran annonce la saisie d'un porte-conteneur que le pays juge lié à Israël. L'État hébreu répond « L'Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage la situation ». L'attaque a aussi été déjouée grâce aux alliés d'Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Jordanie et la France, comme le confirme ce lundi matin sur RMC et BFM TV Emmanuel Macron lors d'un entretien exclusif.
Je suis frappée que vous disiez, Monsieur le Président, que vous êtes intervenu, que la France est intervenue à la demande des Jordaniens. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez pas fait ça en soutien direct d'Israël.
On l'a fait tous en soutien, mais les Iraniens ont violé l'espace aérien de plusieurs pays. Et c'est pour simplement rappeler le cadre dans lequel nous intervenons. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, nous avons une base aérienne en Jordanie pour lutter contre le terrorisme. Et donc l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter.
Israël, de son côté, envisage de riposter. Si une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies se tient en urgence, l'ambassadeur israélien à l'ONU est très clair.
Cette attaque a franchi toutes les lignes rouges et Israël se réserve le droit légal de riposter. Nous ne sommes pas une grenouille dans l'eau bouillante, nous sommes une nation de lions. Après une attaque aussi massive et directe contre Israël, le monde entier, sans parler d'Israël, ne peut pas se contenter de l'inaction. Nous défendrons notre avenir.
We will defend our future.
Mais l'Iran, qui plaide le droit à l'autodéfense, continue de menacer.
Dans un message posté 3 heures après le début de l'opération, la mission iranienne à l'ONU prévient.
L'affaire peut être considérée comme close. Si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère.
Le chef des forces armées iraniennes estime que l'attaque menée cette nuit contre Israël a atteint tous ses objectifs.
Et à l'instant, le président iranien menace Israël d'une réaction encore plus forte. C'est un communiqué officiel venu de Téhéran.
Le secrétaire général de l'ONU a appelé à la retenue maximale, affirmant que ni la région ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre. L'objectif est bien là, éviter l'escalade du conflit et l'embrasement de la région. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques et rédacteur en chef de la revue Orient stratégique. Ce qui s'est passé ce samedi 13 avril, c'est l'aboutissement de 2 semaines de tensions entre Israël et l'Iran, sans compter les frappes qui ont visé ces derniers mois des responsables militaires iraniens en Syrie, des attaques imputées à Israël. Cette attaque de drone, je rappelle que c'est la première attaque directe du régime des Mollahs sur Israël. Est-ce qu'elle surprend, notamment en Iran, et est-ce qu'elle était crainte par Israël ?
De toute façon, elle était attendue et annoncée. Donc c'est tout sauf une surprise. Simplement, c'était les modalités de la réplique iranienne qui étaient incertaines. Téhéran a fait le choix d'une réplique directe en assumant la frappe visant directement donc, l'État hébreu. Donc de ce point de vue-là, c'est sans précédent. Ça constitue une rupture stratégique, parce que jusqu'à présent, Téhéran s'était borné à missionner, on va dire, ses mandataires, ce qu'on appelle les proxys régionaux, à savoir le Hezbollah, les milices pro-iraniennes ou les Houthis, de viser Israël, mais sans être partie prenante directement. Donc de ce point de vue-là, il y a un franchissement d'un seuil, parce que l'Iran a considéré de son côté qu'il y avait eu un franchissement d'un seuil avec la frappe imputée à Israël sur son annexe consulaire de l'ambassade à Damas. Donc on voit qu'on franchit à chaque fois un nouveau seuil, c'est ça qui est préoccupant. Certes, la réplique iranienne a été soigneusement pesée, on peut dire, parce que même si elle est spectaculaire, avec 300 drones et missiles visant l'État hébreu, elle n'était pas destinée à faire des dégâts majeurs. Donc, de ce point de vue-là, a été relativement calibré, mais sur le plan de la signification politico-stratégique, c'est un fait majeur.
Israël affirmait ce dimanche avoir déjoué l'attaque iranienne contre son territoire en interceptant 99% des tirs, selon le porte-parole de Tsahal. Les défenses anti-aériennes et notamment le dôme de fer israélien ont eu le temps de détruire les quelques 300 drones et missiles envoyés par l'Iran. Pour bien comprendre, comment fonctionne ce dôme de fer? Est-ce qu'il est infaillible?
Alors, le dôme de fer n'est pas infaillible. Il est efficace, on l'a vu, mais d'abord, ce n'est pas uniquement le dôme de fer qui a intercepté les tirs de l'Iran. Ils ont été très largement interceptés avant d'arriver sur l'État hébreu par les Américains et puis même par la Jordanie.
Et la France aussi.
Et la France, effectivement, puisque le gouvernement a rendu public le fait qu'il y avait eu une participation française. De ce point de vue-là, c'est un échec militaire en termes d'affichage pour Téhéran, même si politiquement, c'était une réponse jugée nécessaire. Mais stratégiquement, c'est pas un échec, parce que ça veut dire que pour la première fois, la vulnérabilité, effectivement, de la sanctuarisation de l'État d'Israël est posée, en sachant que les missiles et les drones qui ont été utilisés sont pas les plus performants. Et c'est bien ce qui est perçu par Israël, ce qui amènera probablement, vraisemblablement, une réponse qui ne peut pas ne pas se faire, au même titre que les Iraniens considéraient qu'ils devaient faire une réponse à la frappe sur l'annexe consulaire. Effectivement, on peut penser que s'il y avait eu des frappes avec des missiles, notamment de précision, et il suffit de penser aux quelques 150 000 missiles dont l'Hezbollah est supposé être doté, on voit bien que le dôme de fer risque une saturation très rapidement. Ce qui alimentera vraisemblablement la justification de sa réplique, pas forcément de manière immédiate, mais d'une manière ou d'une autre.
Les tensions entre l'Iran et Israël se sont intensifiées depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, opérée par le Hamas, et la riposte d'Israël à Gaza. Mais ces tensions, elles existent depuis bien plus longtemps.
Ah oui, au niveau régional, elles existent bien plus longtemps. L'Iran est le fer de lance de ce qu'on appelle l'axe de la Mukawama, c'est-à-dire de la dite résistance à Israël. Il mobilise effectivement une myriade de groupes, parmi lesquels le Hamas, qui est un groupe sunnite, mais avec tous les autres qui sont d'obédience chiite. Et l'idée, c'est effectivement d'exercer une pression stratégique autour d'Israël, avec le maintien de frappes régulières qui conduisent à des répliques effectivement aussi régulières de la part de Tsahal. Donc de ce point de vue-là, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau là, c'est le fait que l'Iran soit rentré dans l'arène de manière ostentatoire et officielle. Et c'est de ce point de vue-là, effectivement, une réécriture de la grammaire stratégique régionale.
Est-ce qu'il y a des pays qui soutiennent cette attaque de l'Iran sur Israël?
Les pays qui soutiennent, c'est pas des pays, en l'occurrence, c'est plutôt des entités. En dehors du gouvernement syrien, évidemment, qui est l'allié de Téhéran. Si, il y a eu une manifestation du Venezuela qui a effectivement stigmatisé les soutiens à Israël et donc implicitement a considéré comme légitime la réplique de Téhéran. Globalement, au niveau régional, c'est plutôt l'inverse, puisque les États arabes sont plutôt inquiets de voir ce qui s'est passé. Et ça peut alimenter d'ailleurs en profondeur, même si ce n'est pas de manière officielle, le processus de rapprochement avec Israël qui préexistait au 7 octobre. Tout simplement parce que ça peut considérablement renforcer la perception de ce qui est, à tort ou à raison, une menace iranienne.
Alors vous en parliez tout à l'heure, pour Israël c'est une attaque, pour l'Iran c'est une riposte. De quoi s'agit-il finalement?
Ça dépend comment on interprète les choses. De toute façon, on est dans une logique systémique avec des frappes et des répliques qui sont justifiées effectivement en fonction des narratifs respectifs. Du côté iranien, c'était justifié comme en faisant référence au droit à la légitime défense, puisque Téhéran avait considéré que la frappe imputée à Israël sur l'annexe consulaire constitue une violation caractérisée justement de l'inviolabilité des enceintes diplomatiques. Et puis en plus, il y avait l'élimination de membres très importants de la force Al-Quds. Et donc de ce point de vue-là, ça a justifié effectivement, d'ailleurs à l'ONU, la mission iranienne a considéré que l'affaire était close et que la réponse appropriée avait été apportée. Mais du côté israélien, ça ne peut pas être perçu de la même manière. Et la réponse n'est vraisemblablement pas close. C'est qu'une étape supplémentaire dont la montée des tensions, qui vraisemblablement, malgré les efforts pour éviter une logique escalatoire, montée des tensions qui devient de plus en plus importante.
Et justement, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'Israël pourrait répondre à cette attaque? Et si oui, comment?
C'est toute la question. Et singulièrement, on retrouve les mêmes questionnements qui avaient lieu sur une réplique potentielle de l'Iran, justement, qui est intervenue. c'était le fait de savoir si l'Iran allait intervenir, selon quelle modalité et quelle temporalité. La temporalité, elle a été très rapide. Les modalités choisies, ça a été pour la première fois d'intervenir directement en tant que tel et non pas par ses mandataires. Et donc la question de maintenant se pose effectivement de la nature qui pourrait être faite d'une éventuelle réponse israélienne qui vraisemblablement interviendra. La question de la temporalité n'est pas pour l'instant tranchée. Vraisemblablement Israël attendra un peu, surtout du fait des pressions américaines qui ne veut pas alimenter une logique escalatoire au niveau régional. Le principe, en revanche, est acté. La question, c'est les modalités avec le curseur, parce que le problème qui est posé par ce type de frappe, c'est que c'est la question de la dissuasion, justement, vis-à-vis de son ennemi. Et la dissuasion implique effectivement une réponse. Donc le problème sera le niveau de curseur qui sera déterminé par l'État hébreu pour répondre à la réplique iranienne.
Vous le disiez à l'instant, le président américain, mais aussi le président français, appelle à une désescalade. L'ONU a la retenue maximale, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut s'arrêter là? En gros, est-ce qu'on peut être optimiste?
Tout le monde appelle à la retenue parce que tout le monde est conscient que cette logique islamique implique effectivement une logique escalatoire. Donc c'est ce qui explique l'extrême inquiétude. D'ailleurs, le secrétaire de l'ONU a parlé même en disant que la région était au bord de l'abîme. C'est dire s'il y a la conscience de la menace et du danger que représente la situation, et à juste titre, parce qu'effectivement, il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, et même si aujourd'hui, tous les acteurs, paradoxalement, ont fait en sorte d'éviter cette logique escalatoire, notamment en calibrant leurs réponses et leurs répliques respectives, on voit qu'il y a quand même une incrémentation des seuils qui sautent les uns après les autres. Et donc c'est ça qui alimente effectivement l'inquiétude générale, parce que les paramètres ne sont pas tous maîtrisés par les acteurs en présence. Et il suffit d'un mauvais calcul d'un des acteurs ou d'une initiative intempestive pour que la situation devienne incontrôlable.
Merci David Rigoleros d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci.
Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.
Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse à un procès historique, celui de Donald Trump. C'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal. Donald Trump aurait payé le silence de Stormy Daniels, 130 000 dollars. En 2016, le candidat républicain voulait taire une relation qu'il aurait eue avec l'actrice pornographique. À partir de ce 15 avril, Trump, de nouveau candidat, comparé pour falsification comptable face à 12 jurés censés être neutres. Alors comment sont-ils sélectionnés? J'ai posé la question à Thierry Arnaud, éditorialiste politique international à BFM TV. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.